Bien, n'hésitez pas à me dire si je ne parle pas assez fort. Je veux faire...
Déjà.
Alors, pardon. Voilà, je crois que le mieux c'est...
Sinon vous pouvez vous rapprocher comme ça, c'est un premier que j'ai à l'avant, et ici aussi.
Alors je crois que l'idée n'est pas aujourd'hui de se pencher sur la traduction, hein. Je crois qu'il faut prendre l'objet comme il est, donc je ne vais pas du tout en parler, mais si vous voulez, on pourra aborder la question après, hein. Ça peut être quelque chose d'intéressant aussi de regarder un petit peu cette traduction qui pose certains problèmes. Mais je vais donc venir au cœur du sujet. On est donc à la fin des années 1870. On est à un moment charnière, vous le savez, en Europe, notamment sur les plans politiques et sociaux. Le socialisme est en plein essor. Il y a des partis qui se créent, qui demandent une réforme de la société. Le féminisme se développe et dans les pays scandinaves, c'est le moment de la percée moderne, ce qu'on a appelé la percée moderne, qui est un mouvement de réaction contre la société bourgeoise et Ibsen en est bien sûr un des principaux représentants de ce mouvement. Alors bien entendu, quand paraît Maison de poupée en 1879, la plupart des critiques y ont vu immédiatement une pièce féministe dénonçant le mariage bourgeois, remettant en question ce qui était tenu jusqu'ici pour la vocation de la femme, être une épouse, être une mère. Alors, cette dimension, elle est évidemment présente dans la pièce, hein. Il ne s'agit pas de remettre cela en cause, il s'agit bien de dénoncer le statut aberrant des femmes qui, après avoir assuré leur mission génitrice, ne sont plus que des partenaires de jeu sexuels pour leur mari et des partenaires de jeu tout court, pour leurs enfants, hein, ceci étant par ailleurs pris en charge par des nourrices, par des précepteurs. Donc femmes partenaires de jeu pour mari et enfants. Pour autant, il me semble qu'il ne s'agit pas seulement d'une pièce de revendication. Dans une pièce de revendication, le conflit serait simple. Nora se révolterait contre l'autorité masculine, elle réclamerait à être insérée dans la société civile, elle revendiquerait l'égalité des droits, hommes-femmes, la possibilité de travailler. Ce n'est pas cela que décrit la pièce. On n'en est pas encore là avec Nora. Ça viendra ensuite, hein. Je dirais que la pièce de revendication pourrait intervenir après Maison de poupée, une fois que Nora aurait pris confiance en elle, une fois même qu'elle aurait pris conscience d'elle-même. Elle pourrait alors se lancer dans la lutte féministe à proprement parler. Mais dans Maison de poupée, ce que je voudrais montrer, c'est qu'on est en amont de cette lutte. Nous sommes au stade de la prise de conscience, donc, entre le début et la fin de la pièce. Nora prend conscience qu'elle est un être humain. Ça peut paraître extrêmement simple, ce que je viens de dire, mais je crois que ça ne l'est pas. Et on est là, me semble-t-il, au cœur de la problématique de la soumission telle qu'elle apparaît dans la pièce. Ibsen analyse en effet la soumission de la femme comme un processus d'aliénation. La condition faite aux femmes les contraint à devenir autres. Les femmes se réfugient dans des masques dans lesquels se dilue toute notion d'identité, toute notion de personnalité. Voilà un peu le propos que je voudrais développer ici, hein. La pièce montre comment Nora prend conscience de cela. Et de ce point de vue, son discours final dans le troisième acte est sans doute moins un cri de révolte contre son mari qu'un cri de désespoir de qui s'aperçoit qu'elle n'a jamais été un être humain. Donc voilà ce que je voudrais montrer, hein. Comment sa condition a enfermé Nora dans un théâtre, dans des rôles, et comment sa vie finit par lui apparaître pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une illusion de théâtre. Alors, je vous ai mis quelques petites photos par-ci par-là pour agrémenter le propos. En voilà une autre. Parce que voilà, ça illustre un peu mon premier point. Il y en aura trois. Le fait que, donc je vais essayer de rester un peu dans le sujet, hein, tout en n'étant pas philosophe, donc je m'excuse si je tords un peu les concepts de la philosophie. Donc premier point que je voudrais développer, Nora n'est pas elle-même. L'état de dépendance dans lequel elle se trouve par rapport à son mari, on est d'accord, c'est une donnée de départ de la pièce. Et Ibsen prend soin, de ce point de vue-là, de présenter les choses de manière caricaturale. Regardez la liste des personnages, c'est déjà tout un programme. Hein. Elmer, avocat, Nora, son épouse. L'homme est caractérisé non seulement par son famille, mais aussi par sa position sociale. Nora, vous l'avez vu, elle n'a le droit qu'à son prénom. Et encore, c'est un diminutif hein, de Eleonora, donc Nora. Donc vous voyez que c'est un prénom en plus raccourci. Et par ailleurs, elle est caractérisée par sa position dans la famille. Donc, sa dépendance à l'égard de son mari est signifiée dès le début. Notez par ailleurs que les noms ne sont pas choisis au hasard. Thorvald Elmer, dans le nom de Thorvald, on trouve deux mots très évocateurs. Thor, le dieu du tonnerre, hein, vous le savez, le plus fort des dieux de la mythologie grecque, nordique, excusez-moi, il est tard. Et puis il y a le mot Vald aussi, hein, qui évidemment signifie la puissance, le pouvoir. Par ailleurs, Helm, en norvégien, en vieux norvégien, désigne le casque. Donc vous voyez un peu toute la connotation qu'il y a derrière ce nom, hein, le casque, le pouvoir, le tonnerre, etc. La virilité, pour faire référence à ce que dira Nora après sur lui. Ensuite, donc voilà pour les noms, dès leur première entrée en scène, hein, je parle de Elmer et Nora, ils apparaissent conformes à l'éthos de la bourgeoisie au 19e, d'autant plus que Thorvald vient d'acquérir un poste important dans une banque, ce qui fait de leur couple une illustration typique. Hein. Le mari peut jouer son rôle de père protecteur et la femme celui de soutien destiné à illuminer le foyer. Cependant, assez rapidement, on s'aperçoit que tout va de travers, que quelque chose va de travers dans le comportement de Nora. On s'aperçoit qu'elle a plusieurs visages. Ses aveux à Madame Linde montrent très vite que toute la scène qui précède, l'acte 1 avec son mari, baigne dans le mensonge. Et dans tout l'acte 1, Nora ne cesse de faire des accros à la belle image d'Épinal de la femme au foyer, obéissante, qu'elle donne par ailleurs. Avec le motif des macarons, par exemple, hein, sur lequel je reviendrai, ou mieux encore, autre accro, le gros mot hein, qu'elle a très envie de prononcer dès que Thorvald a le dos tourné. Et le thème du déguisement est très rapidement abordé quand, par exemple, elle évoque devant Madame Linde le plaisir de son mari à la voir danser devant lui et se déguiser et jouer des rôles. C'est page 30. Donc, le spectateur perspicace voit très vite qu'il y a un problème. Il n'y a pas besoin d'attendre le troisième acte pour le voir, même si, je dirais par parenthèse, que la plupart des critiques contemporaines d'Ibsen n'ont pas vu du tout de problème. Hein. Ceux qui ne voulaient pas voir le problème de la question féminine n'ont pas eu de problème. Et par exemple, un très célèbre critique français de la fin du 19e a pu s'écrier en voyant ce premier acte. Il a été évidemment choqué par le troisième, mais quand il a vu le premier, il a dit « Ibsen a marqué de très gracieux et charmant le bonheur domestique de Nora, qui va être troublé par l'aspect de Banco. Il y a une scène où elle joue à cache-cache avec ses enfants qui est ravissante. » Donc voilà un petit peu le type de discours qu'on a pu rencontrer pour vous montrer, et on peut le rencontrer aussi, hein, des discours critiques qui montrent que certains ont cru qu'il y avait une sorte d'harmonie dans l'acte 1, ce qui n'est pas le cas. Bon, bref, le problème que je viens d'indiquer ne fait que se confirmer au fil des scènes. Et on acquiert bientôt la certitude que Nora, dans bien les circonstances, n'est pas elle-même, tout simplement. On est d'autant plus enclin à le croire que Ibsen nous a prévenu dans sa note préparatoire. Je pense que vous avez eu l'occasion de la rencontrer, cette note. Alors, je l'ai mis en entier ici parce qu'elle n'est pas dans votre édition. Je trouve ça un peu dommage. Mais en fait, je ne vais pas m'intéresser à la note en entier. Je vais juste m'intéresser à ce que j'ai mis en gras. Parce qu'elle est courte, cette note. Il aurait pu la mettre en entier, recoin, mais bon, il ne l'a pas fait. Donc, on est prévenu qu'il y a un problème par cette note que Ibsen a rédigée en 1878 hein, et qui s'intitule « Note pour la tragédie contemporaine ». Je vous lis la phrase qui m'intéresse. « Une femme ne peut être elle-même dans la société actuelle, qui est une société exclusivement masculine, avec des lois écrites par les hommes, et avec des accusateurs et des juges qui jugent la conduite féminine d'un point de vue masculin. Voilà, c'est tout est dit là. Une femme ne peut être elle-même dans la société actuelle. Voilà le problème posé. Dans l'état qui est le sien, Nora ne peut pas être elle-même. Elle est contrainte d'être autre. Ce que peut proprement décrire, sans doute, le terme d'aliénation, mais étant entendu que je prends ce terme ici dans son sens le plus simple, à savoir, l'aliénation désignerait ici le processus par lequel l'être humain est rendu étranger à lui-même. Donc je prends le mot aliénation dans son sens simple, sans y mettre d'autres connotations, à savoir le processus par lequel l'être humain est rendu comme étranger à lui-même. Notre Nora entrevoit la réalité de cette aliénation à la fin de la pièce, quand elle dit à elle-même, je cite et je vous le mets sur le PowerPoint, « Tu as tout arrangé à ton goût et j'ai fini par avoir le même goût que toi, ou bien je faisais semblant, je ne sais plus. C'était selon, je crois, tantôt l'un, tantôt l'autre. » Il y a une intuition un peu confuse ici, ambivalente, dans laquelle elle distingue, me semble-t-il, deux types d'aliénation que l'on trouve dans la pièce. Je dirais une forme plutôt passive et une forme plus active. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici on rejoint un propos que tenait tout à l'heure Laurent sur la servitude passive et puis à un moment donné, servitude qui devient active. Je crois que ici la problématique est celle-ci aussi, dans une certaine mesure. Il y a d'un côté la forme passive, le conditionnement, l'imprégnation, et de l'autre une forme plus active que l'on voit ici à travers ce « je faisais semblant ». Où la femme règle sa conduite de telle sorte que celle-ci soit conforme aux attentes du mari, au point de vue masculin, comme dit Ibsen dans sa note. Alors, l'aspect passif de la conduite de Nora est à mettre en relation avec un des grands fantasmes de Elmer dans la pièce, Elmer qui se voit en créateur, modelant, remodelant sa créature. Vous vous souvenez qu'après lui avoir accordé son pardon à l'acte 3, il rêve de refaçonner sa femme comme s'il avait à sa disposition une patte dont il pouvait disposer à sa guise, corps et âme. Ça vaut le coup de lire cette citation. C'est pour un homme quelque chose d'inexprimable et doux, une grande satisfaction de sentir qu'il a pardonné à sa femme. Elle est par là devenue doublement sa propriété, il l'a pour ainsi dire mise au monde une nouvelle fois. Elle est en quelque sorte à la fois sa femme et son enfant. C'est ce que tu seras pour moi désormais, petite créature indécise, désarmée, je serai ta volonté. Et ta conscience. Moi, je pense que c'est vraiment fondamental, cette citation, cette image de la mise au monde, de l'enfantement, comme s'il s'agissait de reformer, refondre la personnalité de sa femme. Il ne propose pas seulement d'être son directeur de conscience, mais sa conscience. C'est évidemment un exemple un peu caricatural, mais du côté de Nora, on trouve quand même dans la pièce, plusieurs exemples, plusieurs scènes, où Nora n'est que l'ombre portée de son mari, n'est que la caisse de résonance de la conscience, précisément, de Elmer. Je donne rapidement deux exemples. Par exemple, quand elle reproduit la dichotomie homme-femme simpliste dont il est coutumier, les femmes poupées, les hommes forts et courageux. Bon, voilà, ça c'est basique, mais c'est vrai que Ibsen prend soin de montrer comment elle reproduit de ce point de vue-là un discours appris, un discours dont elle a été imprégnée, pas seulement par elle-même, mais certainement depuis l'enfance. Regardez, par exemple, quand elle accueille ses enfants, quand ils rentrent avec la bonne, non seulement on voit qu'elle ne sait que s'amuser avec eux, mais ça je l'ai déjà dit, mais elle leur parle comme son mari lui parle à elle. Quand elle dit, alors j'ai pas mis la citation, mais page 41, vous verrez, elle dit à son fils, « Oui, tu as de la force, Ivar. » Et qu'est-ce qu'elle dit à sa fille ?« Ma douce petite poupée. » Vous voyez, donc, évidemment, là aussi c'est caricatural, mais c'est pour bien montrer qu'il y a là un discours dont elle est totalement imprégnée, malgré elle. Et puis regardez les cadeaux aussi qu'elle offre à ses enfants. Qu'est-ce qu'elle offre à Ivar ? Un sabre, une trompette, un cheval, et à sa fille, évidemment, une poupée avec un joli berceau. Donc, elle perpétue la domination masculine. Dernier exemple, plus spécifique là-dessus, Elmer se gargarise, vous le savez, je ne vais pas m'étendre beaucoup sur Elmer, elle est aussi un personnage très important, il se gargarise beaucoup de la notion de beauté. Tout son univers, physique ou moral, est divisé en deux, d'un côté ce qui est laid, de l'autre côté ce qui est beau. Krogstad est laid, moralement, la maladie de Rank est laide, la couture est laide, enfin, il y a tout un tas de choses laides, mais Nora a été instituée de son côté gardienne de la beauté. Et elle s'est complètement appropriée ce rôle. Et il me semble parfois que le sens de la beauté de Thorvald soit devenu le sien. Alors si on regarde dans les détails du texte, par exemple quand elle parle à Madame Linde au début dans l'acte 1 de son foyer, elle emploie une expression caractéristique, c'est dommage, c'est pas rendu en français par Recoin. Elle parle de notre beau foyer heureux en norvégien. Et c'est à la page 30, Recoin a traduit juste notre foyer chaleureux. C'est dommage parce que beau, c'est vraiment un terme très très récurrent chez Elmer, et on voit bien en norvégien, si vous voulez, que Nora reproduit aussi, elle a souvent ce terme à la bouche tout le temps, c'est beau, c'est rien de laid ne doit s'immiscer entre nous, etc. Donc, elle parle à Madame Linde 2, page 30, hein, de notre beau foyer heureux. Donc, on a l'impression à l'entendre, pour conclure là-dessus, que la personnalité de Nora n'est qu'une émanation de celle de son mari. Mais l'aliénation de Nora a bien souvent, et peut-être plus souvent encore, quelque chose de volontaire, quelque chose d'actif, pour reprendre l'expression employée tout à l'heure à propos de la Boétie. Elle fait semblant. Conformément aux attentes de Elmer, elle se donne à lui en spectacle dans les deux rôles où il l'attend, celui de la poupée et celui de la fragilité, mais ça se rejoint évidemment. Elle donne à Elmer les gestes typiques de son état. Elle joue son rôle de femme faible, enjouée, enfant, pour correspondre à son état. Alors, gageons qu'elle le fait par amour, hein, ça, je veux dire, la question n'est pas là, et que le jeu ne lui pèse pas. Mais il n'en reste pas moins qu'elle joue dès le début, et il y a là-dessus beaucoup d'indices. Dès sa première entrée en scène, elle joue la comédie du bonheur. Elmer, d'ailleurs, dans cette comédie, apparaît souvent comme le metteur en scène. Hein, vous avez vu, Enora apparaît comme l'actrice, se conformant aux exigences de son metteur en scène. Elle accepte l'idée d'ailleurs de se soumettre à tous les rôles possibles. Hein. Regardez ce qu'elle dit quand elle est effrayée après l'entrevue avec Krogstad, elle est tout à fait effrayée, et elle dit dans une sorte de court monologue, donc Elmer n'est même pas là, « Je ferai tout ce qui te plaira, Thorvald, je chanterai pour toi, je danserai pour toi », page 53. Elle réclame même parfois d'être plus dirigée, d'être mieux dirigée. C'est par exemple le cas, page 56, quand elle lui dit à Thorvald, je voudrais tant être belle à ce bal costumé, Thorvald, ne pourrais-tu t'en occuper, décider pour moi du personnage et comment ajuster mon costume. Donc elle s'ingénie à jouer les poupées, et elle s'ingénie également à jouer les têtes de linotte. Elle se coule donc complètement dans le moule de la femme fofolle et fragile pour rehausser la virilité de son mari, pour mettre en valeur sa puissance par le spectacle de sa propre impuissance. Alors la question est évidemment de savoir, mais je ne vais pas m'y étendre, jusqu'à quel point elle est lucide sur la situation. On peut faire là-dessus beaucoup de conjectures, hein. Ibsen ne nous donne pas vraiment les clés. Si j'étais un peu anachronique, je pourrais convoquer ici Sartre et L'être et le néant. Sartre, vous le savez, dans cette œuvre, passe un certain temps à analyser le comportement des personnes qui précisément ne sont pas elles-mêmes, qui sont sur le mode d'être, dit Sartre, ce qu'elles ne sont pas. Et il passe un certain temps à analyser dans ses comportements ce qui relève plutôt du mensonge ou ce qui relève plus spécifiquement de la mauvaise foi. La mauvaise foi désignant le mensonge à soi-même. Dans le cas de Nora, à vrai dire, je crois que je viens un peu de l'exposer, il y a une part de mauvaise foi, et il y a évidemment du mensonge, pur et simple. Les deux sont mêlés, les deux alternent, comme elle le dit d'ailleurs à l'acte 3 dans la phrase que je citais tout à l'heure. Hein. Et les deux sont mêlés confusément. Elle dit aussi que c'est confus, ça, dans sa tête, hein, à l'acte 3. Dans certaines scènes, elle paraît très lucide, comme par exemple face à Madame Linde. Hein. Elle accepte sciemment que son mari la traite d'enfant, parce que c'est ce qu'elle a à faire pour lui, parce que c'est ce qu'elle a à être même pour lui plaire. Mais par exemple, elle n'accepte pas que Madame Linde la traite d'enfant. Comme si de femme à femme, elle pouvait justement cesser cette comédie et changer de visage. Mais une question surgit alors. Qui est Nora quand elle est elle-même ? Y a-t-il des moments où elle est elle-même, où elle ne ment pas, où elle n'est pas de mauvaise foi? Est-ce qu'il y a un vrai visage de Nora? Alors moi, je cherche un peu partout ce visage dans la pièce. Je cherche, par exemple, quand Elmer n'est pas là. Je cherche quand les enfants ne sont pas là. Eh bien, je dois vous dire, personnellement, que je ne le trouve pas. Pas tout de suite, en tout cas. Il me semble, effectivement, c'est l'hypothèse que je vous soumets, qu'on ne trouve nulle part ce vrai visage, et c'est peut-être là, la tragédie de Nora, c'est mon deuxième point, c'est qu'elle n'a pas de vrai visage. Ce n'est pas seulement que dans l'état où elle est, elle ne peut être elle-même, c'est qu'elle n'a pas les moyens d'être elle-même. Pourtant, hein, encore une fois, quand Elmer a le dos tourné, on s'attend à ce qu'elle sorte de son rôle de composition. Et certains indices vont dans ce sens. Je citais tout à l'heure les macarons. J'ai parlé du gros mot, symptomatique. Mais c'est là qu'apparaît la profonde ambiguïté de Nora. On s'aperçoit que quand elle lève un masque, c'est pour en endosser un autre. Dans la situation où elle se trouve, sans réelle éducation, sans autre guide que des institutions qui font chorus avec son mari, il semble qu'elle ne soit pas en mesure d'être autre chose qu'un rôle de théâtre. C'est donc ce que je voudrais montrer dans ce deuxième point, hein, que j'ai appelé une collection de masques. En effet, la vie de Nora est un spectacle permanent. C'est pas seulement une femme qui joue la comédie du bonheur devant son mari, et qui donc cesse instantanément cette comédie dès que son mari a le dos tourné. C'est beaucoup plus complexe que cela. Elle est incapable, en fin de compte, de se projeter dans une identité qui ne soit pas théâtrale, qui ne soit pas modelée sur des personnages de théâtre, dictés par le répertoire de son temps. Hein, la bourgeoisie fréquentait énormément les théâtres, donc Nora, effectivement, n'était pas très, très éduquée, mais elle connaissait les modèles dramatiques, hein, de son temps, le vaudeville, la comédie de mœurs, le mélodrame, ça, vraisemblablement, elle connaissait, comme Ibsen d'ailleurs. Et tout cela se voit au fait qu'elle apparaît totalement conditionnée par l'univers théâtral du 19e et par des modèles dramaturgiques auxquels, d'ailleurs, précisément, Ibsen a décidé dans son théâtre moderne de déclarer la guerre. Donc, vous voyez, il y a un parallélisme ici de situation entre Ibsen et Nora. Donc, on a vu qu'elle excellait, vous voyez, qu'elle excelle dans les pirouettes de vaudeville, c'est elle qui emploie le terme pirouette, mais en fait, elle se projette dans bien d'autres rôles. Qu'elle les essaie effectivement dans sa maison, transformée en espace de jeu, c'est l'expression qui est employée page 130, donc que ces rôles, elle les essaie dans son espace de jeu, ou qu'elle les fantasme pour l'avenir, hein. Quand, par exemple, elle avoue à Madame Linde avoir rêvé qu'un très vieux monsieur très riche était tombé amoureux d'elle et lui léguer sa fortune, elle ne fait que reprendre un scénario absolument classique de comédie avec le vieux barbon. Vous savez, c'est du Molière, là. Hein. Elle ne fait que reprendre donc un scénario de comédie, hein, où le vieux barbon, après avoir empêché les jeunes d'être heureux, se transforme en Deus ex machina, en mourant providentiellement. Le motif des macarons est de ce point de vue intéressant. D'un certain côté, je disais tout à l'heure qu'il pouvait être indice de rupture de l'illusion théâtrale. Hein. Mais il me semble qu'ils ont aussi une autre fonction. Ils marquent d'un côté une sortie de scène, mais en même temps, je crois qu'ils marquent aussi l'entrée sur une autre scène, avec Rank. Effectivement, les macarons, elle les sort à un moment donné avec Rank, et là, j'ai l'impression qu'en fait, elle ne fait que changer de rôle. De fait, Rank aussi, vous le savez, comme elle meurt, aime les costumes. Regardez de nouveau bien ses répliques. Il le confirme à la fin, page 116, Rank aime beaucoup les costumes, mais il aime les costumes fantasques. Avec lui, donc, elle joue seulement un autre rôle. Et le répertoire du 19e propose bien d'autres rôles que celui de poupée de salon. Il y a aussi, hein, vous les connaissez sans doute, celui de la femme volage. Particulièrement important, hein, dans les comédies de mœurs, dont les dramaturges français, d'ailleurs, ont inondé les scènes européennes, et en particulier les scènes scandinaves, au 19e. Ibsen connaissait parfaitement cette dramaturgie française et les comédies de mœurs à la française. Quand Nora fourre un macaron dans la bouche du docteur Rank, elle ne fait qu'essayer un autre rôle du répertoire, sans doute, celui de la belle délurée. Elle change d'univers théâtral, et c'est encore plus flagrant, vous en conviendrez, au moment de la scène des bas, où elle aguiche assez ostensiblement le docteur. Elle se donne en représentation, à ce moment-là, me semble-t-il, à Ranke, dans un rôle qui le flatte, comme une actrice qui sait s'adapter à son public. La scène des bas intervient juste après un bref échange de regards entre elle et lui, entre Nora et Ranke, dans lequel Nora a pu décrypter une invitation à endosser un masque espiègle. Je vous ai mis la scène au tableau, lisons-la rapidement. Pourquoi seriez-vous... Non, je commence par le début. Ranke la regarde, scrutateur, donc il y a ce regard important de l'homme sur elle. Il fait un petit soupir évocateur. Pourquoi souriez-vous? Non, c'est vous qui riez. Il lui prête quelque chose, là, hein. Non, c'est vous qui avez souri, docteur Ranke. Ranke se levant. Vous êtes encore plus coquine que je ne pensais. Et vous avez vu quel rôle, dans quel rôle ça la met? C'est assez incroyable comme scène. Skjelm en norvégien ici, c'est traduit par coquin, c'est fripon, espiègle, malicieux. Enfin, c'est la femme, oui, c'est la femme espiègle. Je trouve, il force un peu les choses, mais vraiment l'idée est là. Mais il ne s'agit pas de montrer ici seulement que Nora n'est dans toutes les attitudes qu'une actrice talentueuse, donnant à chaque homme le spectacle qu'elle attend d'elle. Nora ne se contente pas de jouer des rôles, elle se rêve aussi dans d'autres rôles. En même temps qu'elle joue la poupée domestique, d'un côté la friponne dans la comédie de Ranke, elle se rêve aussi, et c'est peut-être le plus important, en héroïne de mélodrame, en héroïne de drame romantique. Mais là encore, je voudrais vous montrer qu'elle règle sa conduite d'après des modèles théâtraux. Il faut s'arrêter sur ce drame romantique, car c'est là qu'on s'aperçoit à quel point elle est subjuguée par le théâtre. Elle sait effectivement composer un autre rôle fantasmatique dans lequel elle a pu être une véritable héroïne, pour le coup, hein, en sauvant la vie de son mari. Dans la scène où elle se confie à Madame Linde, elle exhibe donc son attitude théâtrale. Elle annonce d'abord très emphatiquement, hein, « C'est moi qui ai sauvé la vie de Thorvald ». Elle savoure ensuite l'effet de cette remarque, hein, et puis elle retourne au théâtre. Et elle évoque plusieurs rôles possibles à ce sujet. Elle dit qu'elle aurait pu jouer le rôle de la cocotte dans cette histoire. Hein. Il n'est pas dit que j'ai emprunté l'argent. Je peux bien l'avoir eu d'une autre manière. Elle se renverse dans le sofa, très théâtralement. Je peux l'avoir eu d'un admirateur, quand on est un tant soit peu attirante comme moi. Bon, premier rôle possible dans cette pièce de théâtre. Deuxième rôle possible, très mélodramatique. La femme est pleurée. Crois-tu que je n'ai pas d'abord essayé de ruser? Je pleurais, je suppliais, il faut l'imaginer, vous voyez, dans ce rôle fantastique. Mais après avoir envisagé ces deux scénarios, elle a opté pour le troisième, le plus héroïque, le plus mélodramatique, où elle a sacrifié son confort, ses toilettes, ses plaisirs, pour travailler à gagner de l'argent dans l'ombre. Et elle envisage d'ailleurs la révélation de ce secret comme un véritable coup de théâtre, hein, qu'elle garde en réserve, au cas où, hein, dans le cas où elle sera plus aussi jolie. Mais les événements de la pièce bouleversent complètement ce scénario fantasmé. Alors qu'elle croyait arriver au dénouement de l'intrigue, elle a presque fini de rembourser, hein. Alors qu'elle croyait donc arriver au dénouement, l'affaire Krogstad remondit lorsqu'Elmer menace de le renvoyer. Là encore, c'est encore le théâtre qui fournit à Nora un modèle de conduite. Tous les ingrédients sont alors réunis pour faire un parfait mélodrame. Vous avez le méchant, Krogstad. Son nom est d'ailleurs lui aussi tout un programme, hein. Croquette, c'est tordu, courbé, malhonnête en norvégien. Donc il y a le méchant, il y a la jeune femme vertueuse, Nora, qui est menacée par les agissements de ce vil personnage. Il ne manque plus que le héros, noble, brave, prêt à tout pour sauver la jeune fille en danger et punir le méchant. Elmer est l'homme tout trouvé pour jouer ce héros de mélodrame. La pièce d'Ibsen expose alors la manière dont Nora, conditionnée par les grands mélodrames du 19e, invente son propre mélodrame où Elmer s'offrira en sacrifice pour sauver sa dame. Et elle y croit d'autant plus à ce scénario que Elmer, de son côté, pas moins conditionné qu'elle de ce point de vue-là, hein, ne cesse de se peindre lui-même en héros de mélodrame. je vous ai mis des exemples là. Quand la situation, c'est des phrases qu'il lui dit, hein, et vous avez les pages. Quand la situation l'exige, crois-moi, je sais être fort et courageux. Tu verras, je suis homme à prendre tout sur moi. Et une autre phrase encore plus évocatrice, le sais-tu, Nora, c'est après le bal. Bien souvent, j'ai souhaité qu'un danger pressant te menace pour que je puisse donner ma vie, mon sang, tout pour toi. Donc, vous voyez comme lui, il donne aussi, d'une certaine manière, dans ce fantasme. Donc, vous voyez qu'en même temps que se poursuit en surface la comédie du bonheur, les cabrioles, Nora, avec l'aide de son mari, tisse en profondeur son mélodrame où il doit se métamorphoser en héros. Ensuite, donc, quand elle voit Krogstad mettre l'aide dans la boîte, hein, elle acquiert la conviction que le miracle va se produire. Le miracle, c'est précisément la métamorphose de Elmer en héros de mélodrame. Mais rien ne se passe dans la vie de Nora comme sur une scène de théâtre. Et Ibsen s'emploie de ce point de vue-là à démonter une à une les illusions de Nora. C'est Krogstad d'ailleurs, hein, qui ironise sur ce beau rôle qu'elles veulent se donner, ce rôle sacrificiel, quand il ironise devant Nora sur son suicide. Hein. Ah oui, sous la glace peut-être, dans l'eau froide et noire de charbon, et au printemps, refaire surface, laide, méconnaissable, sans un cheveu. Donc vous voyez l'ironie ici de Krogstad. Hein. Mais oui, je la connais, hein. Je le connais, le scénario de l'héroïne sacrificielle. Hein. Il y a évidemment ici une sorte de signe, déjà, que tout va s'écrouler. Malgré cette mise en garde, ces mises en garde, il y en a d'autres, hein, elle persiste à croire à son scénario, mais tout craque petit à petit. Et c'est là-dessus que je voudrais insister un peu. Dans l'acte 2, il y a de multiples indices qui montrent que les choses vont bientôt s'effondrer, que la collection de masques qu'Enora va éclater. On peut lire en particulier deux scènes sous cet angle. D'abord, l'entrevue entre Nora et Rank à l'acte 2, l'entrevue où il lui avoue son amour. Dans le scénario mélodramatique dont je viens de parler, vous êtes d'accord, il n'y a place que pour un héros. Chacun a son rôle, normalement, assigné. Chacun a sa place assignée. Krogstad a la sienne. Et Rank, lui, sa place dans ce mélodrame, à la rigueur, c'est la place du bouffon. C'est l'amuseur, comme elle veut absolument que tout soit amusant avec lui. Quand je dis bouffon, c'est vraiment, je vous prends au pied de la lettre. Hein. Elle ne veut que s'amuser avec lui. La scène du macaron le montre. Hein. Amusons-nous. Hein. Je joue la coquine, et toi, tu es à la rigueur le barbon, pourquoi pas, et mieux encore, le clown. Le problème, c'est que dans cette scène, elle lui donne l'occasion de changer de rôle. Quand elle lui demande un grand, grand service, elle lui offre, sur un plateau, l'occasion de sortir de son rôle d'amuseur. Les rôles assignés, alors, volent en éclats. Car non seulement Rank sort de son rôle, mais qu'est-ce qu'il demande ? Il demande le rôle du héros, tout simplement. Hein. On ne peut pas voir les choses autrement. Regardez, et je vous ai mis, là encore, je vous ai écrit la citation, Nora dit à Rank, pas un instant, en parlant de Elmer, pas un instant, il n'hésiterait à donner sa vie pour moi. Rank se penche envers elle. Nora. Croyez-vous qu'il soit le seul ? Nora, avec un léger sursaut. Le seul ? Sous-entendu, bien sûr, il doit être le seul. Hein. Qui donnerait volontiers sa vie pour vous ? Nora, tristement. Je vois. Et vous voyez, c'est ce déplacement de Rank, hein, cette demande à devenir le héros qui pose problème à Nora. Il ne peut y avoir deux héros dans son mélodrame. D'où la profonde déception, hein, de Nora qui, du coup, hein, se referme. L'autre scène qui met en valeur la fragilité de la mascarade de Nora, c'est évidemment la scène de la tarentelle. Cette scène, c'est une scène de répétition, hein, devant précisément deux hommes. Alors là, Rank et Elmer sont réunis, et c'est précisément intéressant qu'ils soient là tous les deux, car c'est la scène où convergent, du coup, tous les masques de Nora. Le masque qu'elle a offert à Elmer et le masque qu'elle a offert à Rank. Il y a un double regard masculin ici. Ça la rend totalement schizophrène, il me semble. Hein. C'est plus tenable, les rôles, face à ces deux hommes. Et du coup, la danse se dérègle. Elle est trop rapide. La poupée se désarticule ici. Ses cheveux, d'ailleurs, se défont. Et la sauvagerie de Nora, hein, qui est soulignée par les hommes, est peut-être le signe à ce moment qu'elle est prête à jeter tous ses masques. Et c'est effectivement ce qui se passe. Et c'est assez ironique que ce soit précisément Elmer qui porte le dernier coup au théâtre de Nora, en brisant net, par sa réaction à la lettre, l'illusion théâtrale. Vous vous souvenez, quand ils reviennent du bal, ils sont tous les deux costumés. C'est intéressant, ça. Il a son domino, elle a son costume de napolitaine. Ils sont, en quelque sorte, prêts pour la grande scène. Ils ont leur costume pour la grande scène de mélodrame. Mais c'est assez symptomatique, quand ils reviennent du bal, Elmer jette son domino sur le canapé parce qu'il a trop chaud. Déjà, c'est un signe avant-coureur. Du coup, elle est seule avec son costume. Et du coup, elle va jouer seule sa grande scène, s'adressant dans ce grand numéro à son mari en colère, qui n'a que faire de ce grand numéro qu'il qualifie de niaiserie et de comédie. Hein, je vous ai mis la scène ici, hein, quand il ouvre la lettre. C'est vrai ce qu'il écrit, horreur, non, non. C'est, allez, regardez comme elle joue la scène, elle joue le mélodrame. C'est vrai, je t'ai aimé plus que tout au monde. Trêve de niaiserie. Elle fait un pas vers lui. Thorvald, malheureuse, qu'est-ce que tu as fait là? Laisse-moi partir, tu ne prendras pas sur moi la faute. Tu n'en porteras pas le poids. Fini la comédie, c'est cela qui m'intéresse évidemment. Tu vas rester et me rendre des comptes, comprends-tu ce que tu as fait? Et là, effectivement, Nora est médusée. Elle le regarde fixement, le visage pétrifié. C'est intéressant que son visage soit à ce moment-là pétrifié. Il a été jusque-là rempli de mimiques théâtrales, il ne bouge plus, il se statufie. Signe que le théâtre, il s'est vidé de son théâtre ici. Moi, il me semble que dans cet acte 3, le fait qu'elle soit pétrifiée, rigide, statufiée, indique bien qu'elle s'est vidée, hein, de tout ce papier, de tous ces chiffons qui le composaient, de tout ce théâtre qui ne le soutient plus, ce visage. Tout s'effondre, tous les masques tombent, et pas seulement, bien entendu, celui de Elmer. Et de manière symétrique, donc, c'est elle qui, après, va enlever son costume pour se remettre en habit de tous les jours. C'est évidemment très, très symbolique. Je terminerai, est-ce qu'il me reste encore 5 minutes? Je terminerai donc rapidement par ce troisième point, mais ça va aller vite parce que finalement, il n'y a pas grand-chose à en dire. Hein. C'est essentiellement l'acte 3. Portrait de Nora en être humain. Vous avez vu, j'ai mis Suzanne Després, là. Ce qui se passe dans son esprit à ce moment-là, effectivement, et dans les moments qui suivent, est double. La première chose la concerne elle, la seconde chose concerne son mari. Il y a une prise de conscience chez elle avec la colère de Elmer. Elle prend conscience que son être social est vide, donc, hein, je crois que j'espère que je n'ai pas besoin d'un... que c'est un chiffon sans consistance. Sartre dirait, me semble-t-il, qu'elle est renvoyée à son néant, je parlais tout à l'heure de l'être et le néant, elle est renvoyée à son néant qu'elle a rempli de chimères. Donc elle prend conscience qu'elle n'est qu'une marionnette. Elle met un certain temps, vous avez remarqué dans la scène que j'ai incité, elle met un certain temps à accepter cela, hein. Mais vraiment, Elmer est tellement en colère qu'elle finit par prendre acte de l'avortement de son mélodrame. Elle se rend compte, d'ailleurs tous les autres personnages ont déserté ce mélodrame. Hein. Rank, il est devenu sérieux quand il lui a dit qu'il allait mourir, donc il a arrêté de jouer le clown. Krogstad a arrêté d'une certaine manière d'être le méchant. C'est Madame Linde qui dit à un moment donné à Nora, en d'autres temps, sais-tu, il aurait fait n'importe quoi pour moi, et Nora est très étonnée. Oui. Mais donc, vous voyez, les rôles se sont complètement déliés, si vous voulez, hein, ici. Donc, Krogstad n'est pas le méchant qu'elle croyait. Et puis, évidemment, je n'ai pas besoin d'insister, le héros courageux n'était pas celui qu'elle pensait. Du coup, dans toute la scène qui suit, elle essaie d'abord désespérément de s'émanciper du théâtre, sous toutes ses formes. Le mélodrame est fini, hein, mais vous remarquez qu'Elmer, lui, essaie de la remettre, après qu'il a lu la deuxième lettre, il essaie de la remettre sur la scène de la comédie. Hein, la comédie du bonheur. Mais cette comédie qui a maintenant des heures de farce, tant qu'il s'acharne à continuer à s'y donner le beau rôle. Hein. Où est-ce que c'est? C'est là, je crois. Oui, repose-toi sur moi, dit-il. Hein. Repose-toi sur moi, je te conseillerai, je te guiderai. Tâche de retrouver ton équilibre, ma petite alouette effarouchée. Sois confiante, j'ai deux larges ailes pour te protéger. Mais effectivement, c'est tellement farcesque que là, ça l'aide, Nora, dans sa prise de conscience. Elle rejette donc le théâtre, elle rejette les rôles, les mimiques, comme l'indique, encore une fois, sa statification. Elle réclame que cesse le jeu. Et sa demande de sérieux va dans ce sens-là, me semble-t-il, hein, là où là, le théâtre est opposé à la notion de sérieux. Elle demande donc à être autre chose qu'une collection de masques, elle demande tout simplement à devenir quelqu'un. Elle prend donc conscience, comme je disais tout à l'heure, de son aliénation, elle demande à passer du néant à l'être. C'est ce qu'elle dit ici dans l'acte 3, « Je crois que je suis d'abord et avant tout un être humain, au même titre que toi, ou en tout cas que je dois m'efforcer de le devenir. » Or, pour ce faire, vous en conviendrez, elle ne peut absolument pas compter sur son mari. Et pour cause, il est encore plus subjugué qu'elle par le théâtre. Et c'est le sens de la deuxième découverte de Nora, je disais tout à l'heure qu'il y a deux points qui interviennent à la fin de la pièce. La deuxième découverte de Nora concerne effectivement son mari. Si elle se rend compte que sa condition féminine l'a empêchée de devenir un être humain, il me semble qu'elle s'aperçoit aussi que son mari, en dépit de son statut de mâle dominant, est également victime d'une sorte d'aliénation. Alors encore, hein, je ne me suis pas étendue là-dessus, je voulais surtout me focaliser sur Nora, mais on pourrait en dire long sur... Et là encore, je rejoins une remarque que tu faisais tout à l'heure sur dominer, c'est servir. Mais là, on le vérifie aussi. Il est aussi complètement, d'une certaine manière, aliéné. On s'aperçoit qu'il est complètement terrorisé. Il n'est pas du tout, effectivement, l'homme courageux hein, qu'elle croyait qu'il était. Et on s'aperçoit avec elle, devant son accès de terreur, que tout son discours viril, sa posture d'homme puissant, était un discours de mauvaise foi. Quelque part, il est aussi à plaindre, cet homme, même si là n'est pas la question, cet homme que l'éthos bourgeois a contraint à la vigueur, à la solidité, alors qu'il a surtout été dans sa vie faible, il a été malade, hein, peu solide financièrement, hein, aussi ça joue, hein, donc à bien des égards, il n'est pas du tout hein, conforme à l'éthos dont je viens de parler. Donc, chacun des deux a été un autre. Donc, je vais conclure. Hein, dans ces conditions, il apparaît nécessaire à Nora, pour s'émanciper du théâtre, de s'émanciper de son mari. Mais elle ne le quitte pas, hein, comme certains l'ont écrit abondamment, par égoïsme, par bravade, ou même par révolte. Elle le quitte parce qu'elle n'a pas le choix. On en revient toujours à la note d'Ibsen. Hein, et dans sa note, il dit aussi « partir de et aboutir à ce dépouillement féminin ». Elle part, me semble-t-il, hein, en femme désespérée par son néant et résolue à découvrir qui elle est. Et Thorvald est effectivement, dans cette situation, le dernier à pouvoir l'aider. Hein. C'est ce qu'elle lui dit, c'est ma dernière citation, « Tu n'es pas homme à faire l'éducation de ton épouse, je dois faire ma propre éducation. Tu n'es pas homme à pouvoir m'y aider, je dois être seule. » Donc voilà pourquoi elle le quitte. Hein. Donc on voit bien comment Ibsen a transformé ce qui aurait pu n'être qu'un drame de revendication en tragédie de l'aliénation. Et donc j'espère vous avoir montré ici hein, qu'avec Nora, on n'était pas encore véritablement dans la revendication féministe. Elle ne fait pas valoir ses droits, elle ne demande pas l'égalité, elle ne demande même pas à travailler, pas encore. Elle demande juste à devenir un être humain. Et donc, dernier mot là-dessus, hein, sur la distance qu'il peut y avoir entre drame et tragédie, vous voyez où elle se situe, hein. Si on n'était que dans un drame, mais on peut en discuter de cela, hein, le conflit serait simple entre l'oppresseur et l'opprimé. La femme serait la victime, l'homme serait l'oppresseur, mais dans un contexte tragique, le conflit est plus complexe. Nora n'est pas seulement victime de la morale sociale, elle est aussi responsable, ayant joué à la perfection pendant des années hein, la comédie de la femme écervelée, de la femme soumise. Je vous remercie.